Vous vous souvenez ce que dit Marc 11, 23, hein, qui dit que, j'ai oublié moi, rappelez-moi là, maintenant que vous êtes bien, bien chaud là, de l'esprit de Pentecôte là. Donc Marc 11, 23, tout ce que vous demandez en priant, j'aime bien parce qu'il y en a qui baissent la tête là, comme, <c'est, rire> comme à l'école. Hein, voilà, Marc 11, 23. Tout ce que vous priez en demandant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Encore une fois, croyez que vous l'avez voilà, déjà reçu. Vous voyez, ça, c'est cette provocation-là, hein, on peut dire, hein, dans la prière de foi. Tu l'as déjà reçu. Hein, c'est absolument absurde, non hein, on est vraiment dans... C'est ça, la foi. On rentre dans l'absurde. Le mot est malvenu, peut-être, hein, mais pour choquer un peu l'intelligence qui rationalise, hein, qui veut voir, qui pense autrement, qui veut attendre. Voilà, vous l'avez déjà reçu. Il faut rentrer dans cette prière, tu l'as déjà reçu. Comment, quand, c'est l'affaire de Dieu. Mais toi, tu es dans une perspective, tu vis comme si tu l'avais déjà reçu. Hein, c'est ça, c'est ce que je m'efforce de vous dire, hein, et de vous convaincre, tu l'as déjà reçu. Alors, hier, je parlais avec quelqu'un qui priait aussi pour sans trahir l'intimité, mais pour une intention personnelle, avoir des enfants, etc. Tu l'as déjà reçu. Et c'est vrai que c'est provocant, et je comprendrais très bien. Et moi, j'aime bien que les personnes réagissent et disent « Mais père, vous osez... » Mais non, hein, comment une personne peut dire rentrer le soir après avoir passé une journée dans sa maison, une journée, pardon, à chercher du travail, elle rentre ce soir, retrouve sa femme, ses enfants, et puis bénit le Seigneur ensemble pour le travail que tu m'as déjà donné. Vous voyez, alors que bon, ça, son épouse le regarde et dit « Mais t'as toujours pas de... Non, ça n'a pas marché, l'entretien, etc. » Tu l'as déjà reçu, vous voyez. Hein, c'est la foi, c'est la vie de foi. C'est pas absurde, c'est pas un manque de responsabilité, je vous dis tous les cas de figure parce que j'ai tout entendu, vous voyez. Et moi, le jour où j'ai commencé, je le redis encore, c'est mon témoignage, où j'ai commencé à vivre, parce que je le comprenais intellectuellement, hein, mais vous vous souvenez de ce passage, vous pouvez le noter, Jacques chapitre 1 verset 22, qui dit, mais ne te contente pas de lire et de comprendre, mais vis-le. Hein, Jacques 1, 22. Mais vis-le, mets-le en pratique. Et donc pour moi, ça a été une révélation. Encore, c'est un mot fort, révélation. Hein. C'est pas les révélations de Nostradamus, vous voyez. Mais une révélation dans le sens, la parole se révèle. Elle est révélation pour toi. Tu peux le dire, tu as des révélations de la parole de Dieu. Quand? Quand, à un moment donné, tu lis une parole et elle s'illumine, elle s'éclaire, elle devient authentique. Quand tu vis quelque chose, hein, par exemple, tu t'es abandonné à la providence de Dieu, il te manque pour terminer ton fin de mois, je ne sais pas, quelque chose, et puis voilà qu'on frappe à la porte et on te donne ce dont tu as besoin exactement. Tu as une révélation, la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie, tu as fait confiance, Dieu répond. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que des fois, Dieu attend le dernier moment. L'ultime moment, celui généralement que tu vas, enfin c'est souvent là que tu vas, qu'on va, je dirais, défaillir dans le sens où on va pas aller jusqu'à ce dernier moment où Dieu va te provoquer dans sa providence. Voilà. Hein. Si tu croyais que vous l'avez déjà reçu, hein, Dieu attend des fois l'ultime moment, c'est vrai. Et donc ça, c'est la révélation, hein, la parole se révèle. Hein, mais souviens-toi, Jacques 1, 22, tu la mets en pratique, vivre. Hein, on ne se contente pas de la lire, c'est pour ça que ça ne sert à rien. Des fois, j'hésite, on peut énoncer des versets bibliques hein, comme ça, mais si s'ils ne sont pas une révélation dans notre vie, il reste quelque chose de beau, qu'on admire. Hier, je vous disais, dans les Actes des Apôtres, hein, au chapitre 2, dans la Pentecôte, il y a trois catégories de personnes. Vous vous souvenez, le récit de la Pentecôte. Le feu descend, il y a du vent, il y a du bruit, les trois éléments. Hein. Et puis, il y a trois catégories de personnes, finalement. Il y a ceux qui se laissent remplir. Ensuite, il y a ceux qui sont dans l'admiration. Le texte dit, ils étaient dans l'admiration, je vous ai dit hier. D'autres qui sont dans la confusion, la stupéfaction. Mais tu ne te laisses pas nécessairement remplir quand tu es dans la confusion. Au contraire, tu as un petit moment d'attente, comme ça, tu observes et tu laisses passer des fois la grâce. Et d'autres, hein, à la fin du récit des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à la fin du récit de la Pentecôte, chapitre 2 des Actes des Apôtres, il y en a d'autres qui se moquent. Hein, on dit, ils se marraient, ils rigolaient, ils disaient, mais ils sont saouls, ils ont bu du vin d'eau, etc. Oui, c'est vrai, trois catégories de personnes. Ceux qui se moquent, je dirais plus dans notre mentalité franco-française, ceux qui sont plus dans une attitude de distance critique. Vous me comprenez quand je vous dis ça? La distance critique, oui. Moi, j'ai en Amérique latine.